L'interview politique.
Jean-Paul Lachat, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes l'anti-Georges Pompidou ?
Ou pourquoi l'anti-Georges Pompidou ?
Alors, je vais vous expliquer, on lui attribue cette phrase. J'ai pensé à l'Élysée dès que j'ai monté pour la première fois les marches de Matignon. Alors, vous, apparemment, vous n'avez pensé à être ministre que lorsque Martial Courtès s'est retiré de la liste du Centre.
Non, pas tout à fait. En fait, j'ai été sollicité à quelques reprises lors d'élections précédentes où j'ai dû réfléchir à ces questions. Pour toutes sortes de raisons, c'est pas moi qui figurais sur le ticket. Donc j'avais eu le temps de cogiter ces choses. Et c'était peut-être l'avantage par rapport à d'autres pour proposer une candidature spontanée.
Mais blague à part, cette candidature, est-ce qu'elle arrive pas un peu tard, trop tard peut-être, dans l'esprit des électeurs ?
Alors elle est arrivée parce qu'il fallait une liste à 5 pour défendre les deux sièges du Centre au gouvernement.
Le comité directeur voulait une liste à 4.
Hein. Et puis, moi, j'ai proposé ma candidature et c'est finalement le Congrès qui a décidé de partir à 5. Et c'était uniquement dans ce but-là que j'ai proposé ma candidature. Si le parti, le Congrès, avait décidé de rester à 4, c'était fait.
Et est-ce que quelque part, vous avez envie de dire aujourd'hui, merci Daniel Held. Daniel Held, c'est l'auditeur qui a réalisé l'analyse du département de Martial Courtès. Vous ne seriez pas là, peut-être, sans lui.
Alors, peut-être que je ne serais pas là. Sans doute que oui, je ne serais pas là, puisqu'il y avait une liste qui était à 5 qui était définie. Puis encore une fois, l'objectif, c'était de rester à une liste à 5 pour moi. Et puis c'est pour ça que j'ai proposé mes compétences au parti.
Mais vous n'êtes pas que le cinquième de service. Autrement dit, votre candidature, elle n'est pas alibi pour boucler la liste et puis accessoirement essayer de piquer quelques voix à Frédéric Richneck.
Du coup, non, puisque moi, quand je me lance dans une affaire, je le fais avec sérieux. Je le fais avec sérieux pour répondre aux attentes des gens qui soutiennent le parti. Et puis, le but, c'est vraiment de convaincre un maximum d'électeurs de voter pour le Centre.
Être du Centre aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut encore dire finalement, surtout depuis que votre parti ne s'appelle plus démocrate chrétien ?
Le Centre, ça veut dire être entre cette gauche et cette droite, trouver des solutions et des compromis qui soient satisfaisants pour l'ensemble de la population, ni trop à gauche, ni trop à droite. Et puis, souvent, on voit que dans des discussions clivantes, le Centre amène vraiment quelque chose, il propose des solutions qui soient acceptables pour une majorité.
Mais le compromis, la recherche de solutions, n'est pas vraiment dans quelque chose qui mobilise. C'est plus un moyen, finalement, ou un but, un objectif qu'une idéologie.
Après, les valeurs du parti, c'est ceux de la famille, bien sûr, mais aussi de la responsabilité individuelle, du travail collectif et puis de l'entraide. Il y a toutes ces notions-là qui sont derrière les images que veut véhiculer, que veut soutenir le parti du Centre.
Vous connaissez bien l'administration cantonale en tant que chef de service de l'économie rurale. Si vous êtes élu ministre, est-ce que vous serez un ministre dont la main ne va pas trembler au moment de supprimer des postes dans la fonction publique ?
Alors, à un moment donné, il faudra faire l'analyse des prestations que l'État fournit, voir comment est-ce qu'on peut les améliorer, les rendre plus efficaces pour finalement réduire les charges de structure de l'État, qui est un gros problème qu'on a actuellement. Puis après, avec autant d'employés, on a des départs naturels qui interviennent régulièrement. Donc on pourra profiter de ces occasions pour réduire, si nécessaire, le personnel de la fonction publique.
Mais est-ce que la fonction publique jurassienne, qui a déjà fait beaucoup d'efforts pour tenter d'équilibrer les finances du canton, est-ce qu'on peut encore lui demander des efforts et même une motion qui demande la suppression de 100 EPT d'ici 2030, est-ce que c'est quand même pas trop leur demander ?
Alors je pense qu'il ne faut pas demander ça aux employés de l'État. La question elle se pose en d'autres termes. Il s'agit, comme je l'ai dit juste avant, de faire l'analyse des prestations que fournit l'État, de regarder comment on fournit ces prestations, s'il est possible de les produire avec des nouveaux outils, notamment les outils numériques, pour réduire la charge en travail. Et puis finalement, après, il y aura encore le choix de faire, de dire... Mais certaines prestations, on les supprime parce qu'elles ne sont pas absolument nécessaires ou qu'on peut s'en passer.
On devra aussi supprimer des postes.
Mais bien sûr que derrière, si on supprime une prestation, il y a des postes qui vont disparaître. Mais ce n'est pas le personnel de l'État qui devra faire le job, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Donc il y a vraiment une discussion à avoir. Et puis encore une fois, il y a des départs naturels. Si on imagine qu'on a avec les enseignants 2700 ou par là autour... personne qui travaille pour l'État, c'est pas des EPT, c'est un nombre de personnes. Donc il y a un certain nombre de départs naturels et puis il faut travailler avec cela pour voir où, comment on peut orienter les choses pour qu'il y ait le moins possible de licenciements, en clair.
Jean-Paul Lachat, merci d'avoir répondu à mes questions.